États-Unis, Amérique latine, anatomie d'un impérialisme.
À l'heure où Donald Trump fait arrêter le président vénézuélien Nicolas Maduro, lorgne sur son pétrole et menace la Colombie ou Cuba, retour sur la longue histoire de l'impérialisme états-unien sur son continent. Coup d'État, sanctions, ingérence, comment Washington a façonné l'Amérique latine et comment les pays latino-américains ont-ils résisté ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Olivier Compagnon.
Épisode 5, 2004, l'Alba face à l'Empire.
Nous soulignons que la zone de libre-échange des Amériques constitue l'expression la plus achevée des appétits de domination sur la région et que, si elle entrait en vigueur, elle aggraverait le néolibéralisme et provoquerait une dépendance et une subordination sans précédent. Déclaration conjointe de Hugo Chavez et Fidel Castro, le 14 décembre 2004. Olivier, Compagnon, on avance ensemble. Là, on est dans un moment historique majeur de notre histoire. On l'a entendu avec les mots de Chavez et de Castro, la dépendance, la subordination sans précédent. Ce projet de zone de libre-échange des Amériques, c'est le projet de Bush, d'une grande zone de libre-échange qui irait du nord au sud et dont l'ALENA, si des étudiants nous écoutent, était une première étape seulement à Canada, États-Unis, Mexique. Là, on élargit jusqu'à la Terre de Feu, le fantasme de George Bush et des États-Unis libéraux de l'époque. Un homme dit non. C'est Chavez. Il faut revenir sur son arrivée au pouvoir en 1998 et sur cette vague de gauche qui va toucher l'Amérique latine à ce moment-là et qui inquiète beaucoup Washington.
Oui, effectivement. Washington était persuadé, alors je ne sais pas si tout Washington est persuadé, mais enfin beaucoup étaient persuadés de la fin de l'histoire.
Oui.
Au début des années 1990, autrement dit, du triomphe à la fois de la démocratie libérale et du modèle capitaliste néolibéral tel qu'il avait été éprouvé pour la première fois dans le laboratoire chilien. À la nuance près, effectivement, que les choses ne se passent pas exactement comme cela. Le premier espace de contestation, c'est 1er janvier 1994, entrée en vigueur de l'ALENA et au même moment, révolution néo-zapatiste du sous-commandant Marcos qui apparaît alors
au Mexique,
dont on se souvient qu'elle a là encore captivé les opinions européennes ou nord-américaines.
Le monde diplomatique adorait ça.
Il y a eu un moment Marcos dans l'histoire intellectuelle, je dirais,
énorme.
De la France, de l'Europe et même des États-Unis.
C'était le moment altermondialiste.
Absolument, et c'est l'altermondialisme se structure dans les années qui suivent. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique latine va être l'un des berceaux très forts de l'anti-néolibéralisme, mais pas pour rien, tout simplement parce qu'elle en a été aussi le premier territoire. Et là, c'est là que je fais le lien avec Chavez. Puisque, effectivement, comment Chavez arrive-t-il au pouvoir ? On dit toujours, finalement, c'est quoi ? C'est un ancien militaire putschiste qui gagne la présidentielle. Bon, voilà.
Qui tente un coup d'état en 92, qui fait de la prison.
Oui, alors en fait, il faut quand même revenir en deux mots sur ce qui se passe au Venezuela. Venezuela, au tournant des années 80 et 90, est soumis par le FMI à une cure d'austérité. Austérité néolibérale extrêmement brutale, 1989 exactement. Et à ce moment-là, il y a notamment une grande révolte populaire spontanée qu'on va appeler le Caracasso, dont la répression par le gouvernement fera peut-être 3000 morts, quelque chose comme ça, et qui est une révolte populaire contre des mesures absolument drastiques qui viennent d'être annoncées par un président social-démocrate d'ailleurs, mais qui venait de faire le voyage à Washington et qui est arrivé avec son paquet de mesures néolibérales.
Et c'est juste, je fais une note de bas de page, c'est ce qu'on appelle le consensus de Washington,
alors, c'est l'époque
et qui n'est pas loin des Chicago Boys de 1973. C'est la même histoire.
C'est exactement la même histoire. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les sociétés latino-américaines vont être le berceau de ces contestations du néolibéralisme. Alors, on le voit avec ce fameux Caracasso de février 1989, on le voit avec le sous-commandant Marcos, et on le verra aussi à Buenos Aires en 2001, lorsque on verra ces gigantesques soulèvements de magasins pillés, etc., et de populations qui sont littéralement affamées par le modèle économique. Alors, Chavez, en fait, il arrive, lui, sur les ruines d'un système politique qui était démocratique depuis 1958. Le Venezuela était l'un des rares pays à avoir gardé cette stabilité démocratique. Alors, troisième exportateur mondial de pétrole, le Venezuela, à l'époque, et où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, si vous voulez.
Et en fait, le pétrole était tenu largement par les intérêts américains.
Alors, par les intérêts américains, et puis par des élites relativement limitées, et puis par un État...
Américain, États-Unien.
États-Unien, voilà. Et par un État qui avait pu être redistributeur dans certaines époques, mais qui l'était beaucoup trop peu, en tout cas dans les années 90. Ce que je veux vous dire, c'est que Chavez, c'est le produit de ce paradoxe fondamental d'un État qui est potentiellement extrêmement riche et où, à un moment donné, une part très importante de la population vivait dans des conditions inacceptables. Il est aussi le produit, d'ailleurs, d'une corruption endémique au sein des partis qui avaient administré la démocratie depuis 1958, mais ça, c'est une autre histoire. Et effectivement, il arrive, il promeut...
Il est élu démocratiquement.
Il est élu démocratiquement largement au second tour contre une ancienne Miss Univers. C'est dire quand même le niveau de décomposition de la vie politique vénézuélienne à ce moment-là. Non mais c'est important, c'est la crise de la représentation des partis politiques, puisque de toute façon, l'un ou l'autre faisait toujours la même politique néolibérale dictée par le FMI. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on est allé chercher en allant chercher Chavez ou une ancienne Miss Univers, on est allé chercher un outsider. Mais en tout cas, effectivement, Chavez arrive en tout cas dans ce contexte-là. Et arrive en plus dans un, par ailleurs, dans une conjoncture économique qui est assez extraordinaire, puisque le chavisme, entre donc Chavez est élu en décembre 98, arrive concrètement au pouvoir en février 99 et va bénéficier pendant une bonne dizaine d'années de cours du pétrole extrêmement élevés.
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est un peu le roi du monde, Chavez, quand il arrive, et il va effectivement mettre en place, alors au niveau intérieur, toute une série de politiques de redistribution qui vont avoir des effets qu'on peut mesurer statistiquement, avec une réduction de la pauvreté, avec une réduction de l'indice de Gini, donc qui calcule les inégalités.
Et ce n'est pas de l'idéologie que de le dire.
Et tout en étant confirmé régulièrement au travers d'élections démocratiques jugées comme telles par les observateurs internationaux, mais tout en ayant aussi un certain nombre de pratiques autoritaires au sein de la démocratie, comme en fait ça arrive extrêmement souvent. Je ne dis pas que le régime Chavez était un modèle démocratique absolu. Par contre, effectivement, il correspondait à la souveraineté populaire durant ces années-là. Et puis, évidemment, il y a aussi une politique internationale de Chavez. Il y a cette rivalité, alors très discursive, des conférences de presse tous les trois jours, contre Bush, contre les États-Unis, des provocations...
Les Yankees.
Voilà, contre les Yankees, des provocations permanentes, etc. Mais à un moment donné... Effectivement, le passage à l'acte avec Castro et la volonté de proposer un modèle d'intégration à l'Amérique latine qui soit une véritable alternative au projet de zone de libre-échange des Amériques qu'avait porté Clinton au départ et que porte Bush à ce moment-là.
D'ailleurs, ALBA, c'est alternative bolivarienne des Amériques.
Pour les peuples des Amériques. Pour les peuples. On ne le voit pas dans l'acronyme, mais c'est pour les peuples des Amériques le véritable nom. Donc cette idée, c'est que le projet de zone de libre-échange, c'est pour les élites des Amériques. Nous, notre projet, c'est pour les peuples.
Et puis, avec un jeu de mots, l'ALBA, c'est l'aube. Il y a quelque chose d'assez malin de la part de ce bon marketeur qu'était Chavez.
Voilà. Et puis l'autre idée quand même, c'est que certes, il y a des finalités de coopération économique au sein de l'ALBA, mais le premier projet, le ciment de l'ALBA, c'est d'abord un ciment politique, c'est une vision du monde, une vision de la politique, une vision des relations internationales qui est partagée par les principaux promoteurs, qui est très anti-Yankee, justement, mais l'idée, c'est de ne pas faire de l'intégration comme l'Union européenne ou comme la zone de libre-échange, qui soit d'abord économique et peut-être ensuite politique, c'est de partir d'un projet politique et d'un constat politique partagé.
C'est aussi le vieux rêve bolivarien, hein. L'alternative bolivarienne. Premier épisode, on parlait de Bolivar et de ce rêve d'unité. Il y a là aussi la continuité d'une œuvre politique.
Ce sont les années où Chavez ne manque pas d'intervenir systématiquement devant un portrait de Bolivar et c'est effectivement dans cet héritage-là qu'il essaie de se fondre à ce moment-là.
Mais il n'est pas seul. On a cité Castro, mais il y a Evo Morales en Bolivie, il y a d'autres chefs d'État. C'est un moment où l'Amérique latine et centrale bascule en partie, pas totalement, mais en partie à gauche. Comment les États-Unis réagissent à ça ?
Alors, d'abord, effectivement, c'est ce qu'on appelle le virage à gauche en Amérique latine. Et après Chavez, il y a Lula, en 2002,
bien sûr,
évidemment. Et puis ensuite, et d'ailleurs, non sans lien avec Chavez, puisque Chavez va dépenser pas mal d'argent pour financer des campagnes électorales à l'extérieur, non sans lien donc avec Chavez, arrive au pouvoir Evo Morales en Bolivie en 2006 et puis Rafael Correa en Équateur. Donc là, effectivement, on a ce virage à gauche, sans compter, évidemment, à l'époque, le Chili également, l'Uruguay, etc. Si ce n'est que ces gauches sont quand même extrêmement hétérogènes.
Oui.
Et là, on touche aussi, j'allais dire, aux limites de l'ALBA. Certes, l'ALBA est vue d'un très très mauvais œil à Washington immédiatement, parce que là, on a l'impression quand même alors, qu'on formalise des solidarités en fait, qui sont déjà à l'œuvre. Une précision, une parenthèse.
Oui.
Lorsque Chavez arrive en février 99, Cuba est à l'agonie. C'est ce qu'on appelle le periodo especial où Castro a dû dollariser l'économie, faire rentrer les touristes, etc. Mais enfin, c'est vraiment très compliqué.
Ouais.
Et là, se met en place la perfusion économique et notamment énergétique vénézuélienne qui est absolument fondamentale pour comprendre la survie du régime cubain jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais qui est importante quand même.
Ah oui, 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 pour aujourd'hui, bien sûr.
Pour comprendre après ce qui se passe aujourd'hui. Toujours est-il que, bon, évidemment, cette initiative est très mal vue par Washington, mais cette initiative, elle pose aussi des problèmes en Amérique latine. Et finalement, qu'est-ce que ça va être l'ALBA, ça va être Caracas, La Havane, le Nicaragua, qui va rejoindre l'Alliance à un moment donné, et puis certains pays qui vont s'en rapprocher, la Bolivie, l'Équateur. Mais attention, en 2008... Lula réunit l'ensemble des chefs d'État latino-américains à Brasilia et crée l'UNASUR. Et l'UNASUR, c'est au fond un dispositif qui est concurrent de l'ALBA. Pourquoi ? Parce que ces gauches sont hétérogènes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de radicalité du socialisme du 21e siècle. C'est le projet défini par Chavez en 2005, qui ne convient pas à Michel Bachelet au Chili, qui ne convient pas à Lula au Brésil, qui ne convient pas à la gauche uruguayenne du moment. Et d'ailleurs, Washington avait théorisé les deux gauches latino-américaines. Il y avait une gauche avec laquelle on pouvait parler et une gauche qu'il fallait effectivement mettre au banc des relations internationales et des relations panaméricaines.
Sauf qu'elle n'est pas au banc parce qu'il y a un nouvel acteur mondial qui regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Amérique latine, c'est la Chine.
Oui, alors l'autre intérêt de cette séquence des années 2000, c'est que, effectivement, c'est le moment de la diversification économique des partenariats latino-américains. Ouais. C'est au début des années 2000 que la Chine s'impose comme le premier partenaire commercial, d'abord du Chili, puis du Brésil. Et là, moi, je me souviens de cette époque, j'étais déjà prof en histoire de l'Amérique latine. Et vraiment, là, ça apparaissait comme un basculement historique, parce qu'après un siècle, en gros, d'hégémonie économique états-unienne, qui avait lui-même succédé à un siècle, pas un petit siècle, d'hégémonie britannique. Là, on voyait arriver la Chine et on se disait qu'est-ce que ça va donner.
Juste, je vous coupe, mais on évoquait dans un épisode précédent un canal au Nicaragua financé par les Chinois et pour les Chinois. C'est ce moment-là.
C'est ce moment-là. Alors, les Chinois, en fait, c'est assez intéressant. À ce moment-là, ils arrivent uniquement en tant qu'acteurs commerciaux, importation, exportation, et il faut dire qu'on est dans la période d'explosion de l'économie chinoise. À partir du début des années 2010, ils vont davantage arriver comme un acteur financier, et une des choses qui est intéressante aujourd'hui, je le dis au passage, c'est qu'il y a une diplomatie culturelle chinoise qui s'est mise en place en Amérique latine, et qu'il y a désormais je ne sais combien de centres Confucius en Amérique latine, avec une véritable diplomatie culturelle qui se met en place, et qui renvoie d'ailleurs à ce qu'on a pu dire dans l'épisode
des États-Unis,
précédent, des
oui,
États-Unis.
Alors les États-Unis et leur doctrine Monroe, ils l'avaient oublié, ça ne concernait que les Européens, ils n'ont pas vu venir la menace chinoise.
Et alors ça, c'est tout à fait essentiel pour comprendre ce qui s'est passé début 2026. En fait, il y a un véritable tournant avec la fin de la guerre froide. C'est-à-dire que la fin de la guerre froide, c'est aussi la première guerre du Golfe, et puis, 10 ans plus tard, c'est le 11 septembre 2001. C'est la réorientation fondamentale de la diplomatie états-unienne ou des intérêts stratégiques états-uniens vers le Moyen-Orient. Ça, c'est le premier élément qui est essentiel. Peut-être en croyant que, précisément, de toute façon, l'Amérique latine, on a fait le boulot, elle est acquise. Elle est néolibéralisée, les marxistes ne sont plus là, elle est acquise. Aujourd'hui, les vrais enjeux sont au Moyen-Orient. Ça, c'est un basculement donc, qui a lieu dans les années 1990. Et puis, il y a un deuxième basculement quand Obama arrive au pouvoir et qu'il exprime très clairement. C'est vers l'Asie.
Oui.
Obama qui
l'Asie
dit,
Pacifique.
Bon, voilà, l'Asie Pacifique, c'est le lieu de demain. Autrement dit, Washington détourne les yeux de l'Amérique latine et c'est là qu'effectivement la Chine s'impose très rapidement pour être aujourd'hui un acteur absolument fondamental.
La Chine, mais aussi d'autres pays, hein. L'Iran va s'intéresser aussi à la zone, les Européens aussi. Les États-Unis, peut-on dire, et c'est la dernière question de cet épisode, sont-ils en train de perdre l'Amérique latine dans les années 2000 ?
Beaucoup d'observateurs disaient à la fin des années 2010 que l'Amérique latine avait été perdue par les États-Unis et que le processus avait commencé, en fait, dans les années 1990, dès lors que le Moyen-Orient s'était imposé. Donc c'est un véritable tournant, effectivement.
Assiste-t-on aujourd'hui à une reconquête de l'Amérique latine par les États-Unis de Donald Trump ? Ça sera l'objet de notre dernier épisode. États-Unis, Amérique latine, anatomie d'un impérialisme, est un podcast original de France Inter.